Alors, méditation spirituelle. Voilà. Mon mental est en j'ai mis en stand-by, il suffit de l'embrancher pour reprendre le sujet. Alors, ça veut dire quoi? Vous avez bien saisi que le principe technique de la méditation, c'est le processus suivi de déroulement d'une réflexion. Bien. Lorsque toute personne, on va dire, dotée d'intelligence, effectue un travail de réflexion, elle est en méditation. Ça veut dire en concentration sur un sujet en voie de développement. Cette méditation prend son caractère spirituel quand elle est en alignement intérieur vertical dans la cinquième dimension. En d'autres termes, alignement avec son être intérieur et ensuite vers la hiérarchie de lumière et ultérieurement vers la maison du Père. Cela implique un processus de concentration. Alors, une méditation. Là, je parle donc de méditation spirituelle. Une méditation implique un processus de respiration. Et analogiquement, comme la respiration physique, il y a inspire, intermède, expire, intermède. C'est-à-dire, inspire, alignement avec l'être intérieur. Pause de contact, ce qui permet à l'âme d'impressionner. C'est l'intermède. Respire, l'âme projette sa lumière sur la présence terrestre, donc le cerveau physique. Intermède, le cerveau physique enregistre. Entre notre être et notre cerveau, il y a les relais liés au centre. Lorsque c'est avec notre être, c'est les trois centres supérieurs, tête, gorge, cœur, qui relaie. N'oubliez jamais le circuit depuis le corps subtil où nous avons le champ de conscience. Relayé, si c'est au-delà de l'âme, relayé par l'âme, relayé par nos corps intermédiaires et le centre concerné. Ce qui veut dire que si c'est le centre du cœur, ce sera le corps bouddhique qui va émettre. Centre de la tête, le corps atmique. Centre de la gorge, le corps manasique. C'est pour que vous compreniez bien d'où vient en fait celui qui impressionne. Et le cerveau décrypte. Ce qui veut dire que dans la contemplation, dans la méditation, vous avez une élévation, une contemplation, une impression et une réception.
L'élévation, c'est quand j'inspire. La contemplation, c'est la réflexion.
L'intermède, c'est l'intermède.
L'expire, c'est l'impression.
Oui. Mmh. Et, l'intermède, c'est la réception dans le cerveau.
Quand j'expire, j'ai l'impression, mais tout à l'heure j'avais compris que quand on avait une pause, c'était là que ça permettait d'impressionner, à l'âme d'impressionner. Donc en fait, on impressionne aussi dans la pause.
Tu es impressionné?
Dans la pause et dans l'expiration, dans les deux.
Tu es impressionné. Et quand tu es ultérieurement, quand l'être est relié à sa racine de vie, alors là, il est relié au Père et il va avoir un rôle d'échange, il est impressionné et lui-même devient impressionnant. Il impressionne. Et il impressionne par ses centres sur les règnes planétaires. Alors, pourquoi la méditation ? Parce que cela nous permet de créer l'alignement permanent, c'est-à-dire l'état de samadhi, comme le désignent les orientaux, plus facilement en comprenant que l'état de samadhi, tout est regardé du haut vers le bas, et non plus du bas vers le haut. Donc tout est observé d'en haut. Et la finalité, c'est effectivement de devenir ce que l'on est, c'est-à-dire le Père. Comme vous l'a dit il y a 2000 ans, Maitreya, celui qui me voit, voit le Père. C'est le processus le plus naturel pour fusionner avec son être, dans un premier temps, et ensuite s'identifier au Père, et en faisant cela, on participe à la dissipation du mirage et surtout, on est soi-même la voie, c'est-à-dire un filament de l'antakarana planétaire. La méditation est le processus naturel qui permet d'établir cet antakarana. On n'est plus enfermé dans la conscience du non-soi, on est dans la conscience de son être et on devient ce que l'on est, c'est-à-dire le Père. Et ainsi pouvoir dire, et non pas prétendre, mais bien être ce que l'on prétend, c'est-à-dire celui qui me voit, voit le Père. D'où la vigilance à ne pas tenir des longs temps de méditation. Je vous dis, votre Père est simple. Dès l'instant où vous allez penser aux nécessités du quotidien, c'est débranché. C'est vos lunaires qui vous ont récupéré. Alors ceux qui sont là à être en méditation des heures, voire plus, c'est du temps inutile gaspillé.
À moins qu'ils aient pas de pensée, à moins qu'ils soient concentrés.
Essaye, tu vas voir.
Quand on est débranché, on peut se rebrancher.
T'as 12 secondes. Autrement, c'est fermé.
Et on peut recommencer plus tard.
Oui, mais il faut comprendre que l'on est dans une... un acheminement tout à fait naturel et que par conséquent la nature même supérieure, il n'y a pas de précipitation. Hein, vous tombez sur ces phrases paradoxales, le temps ne compte pas, mais le temps est précieux. Je vous rappelle que ceux qui se disciplinent aux lois de la vie sont rangés en trois familles. Il y a les lièvres, il y a les crabes et il y a les tortues. Alors, il y a les méditations pour les lièvres, qui eux, bien sûr... Hein? Mais il faut avancer comme une tortue, lentement mais sûrement. Simplement, au fil de la journée, bon, le sujet du jour, c'est pas la méditation, mais au fil de la journée, alignez-vous pour faciliter, justement, votre emprise sur votre quotidien. Votre méditation sera d'autant plus efficace que vous aurez l'intime conviction de votre présence intérieure. Je vous rappelle que la foi, c'est l'intime conviction en une réalité. La sagesse immémoriale de tous ceux qui ont emprunté cette voie vous dit pratiquez de cette façon et vous serez. Mais il ne s'agit pas de forcer. Il faut que ce soit naturel. Alors vous avez, pour terminer sur cette parenthèse, vous avez la grande invocation, dont vous voyez que la teneur n'est pas du tout une prière, mais en fait un alignement énergétique bien précis avec les centres énergétiques majeurs de la planète. Et par conséquent, ça n'est pas du tout... une prière, mais un travail spirituel extrêmement précis, donc énergétique. L'être doit devenir un centre d'énergie. La finalité de la méditation, c'est ça, devenir un centre de vie, conscient, dynamique, rayonnant. Vous avez des questions ?
J'ai très bien compris là.
Oui. Tu étais, merci, tu étais en alignement énergétique là. Tu étais en méditation là.
Il n'y a pas une phrase que je n'étais pas mentale là. Hein. J'ai tout est...
Bah c'est bien parce que tu t'aperçois que c'est peut-être une clé là. Tu te dis, oui, ah, quand je pratique en méditation, ça je vois clair. Là. Vous mesurez les paroles, la puissance des paroles du Christ il y a 2000 ans, quand il vous dit « je suis la voix ».
Je suis la voix.
Parce qu'en fait, l'être suit le sentier de la lumière, et en suivant le sentier, il devient lui-même la voix, puisqu'il devient ce filament de l'antakarana.
D'ailleurs, c'est la voix comme la vie, de toute façon. C'est le même mot en latin. Hein. On est là,
via.
Là,
c'est...
Via. Via. Ah, oui.
Via.
Tout est dans les mots. Quand faut-il savoir les lire.
Alors, un autre point qui devrait être noté est que la cristallisation de cette époque matérialiste offre une grande opportunité pour frapper un coup mortel au gardien du seuil planétaire. Il faut savoir, si vous voulez, que pour détruire un élément qui n'est plus conforme, il faut la cristallisation. Et c'est ce que font en fait tous les empires qui se font détruire. Ils se cristallisent, ils se durcissent, ils deviennent rigides et ils deviennent vulnérables. Les réactions que provoque cette époque, je vous rappelle, c'est écrit première partie du 20e, hein, par la tension due aux circonstances, amène une compréhension plus spirituelle et une réorganisation des valeurs humaines. Vous voyez aujourd'hui, avec les secousses qu'il y a eu dans le veau d'or de l'humanité, la bourse, vous voyez qu'il y a eu la même émergence d'aspirations spirituelles. Et ce qui est très curieux, c'est que l'humanité, dans son vaste ensemble, a bien répondu comme ça, et c'est uniquement les professionnels du système qui, eux, veulent sauvegarder le système. Ce qui est regrettable, si vous voulez, c'est que dans le système même des professionnels, vous aviez des êtres du 5e règne qui pouvaient prendre non seulement la parole, mais aussi amener à une réflexion évolutive. Et par hésitation, ils n'ont pas assumé. Lorsque le Bouddha était sur Terre et qu'il parvint à l'illumination, il lança un flot de lumière sur le problème du monde en énonçant les quatre nobles vérités. Je vous rappelle, ça concerne la souffrance, la cause de la souffrance, la dissipation de la souffrance. Et donc il a appréhendé en fait le désir. Qu'est-ce qui causait la souffrance? C'était le désir, la volonté du désir. Ses disciples, les 900 Arhats, formulèrent ces quatre grandes vérités en doctrine et en dogme qui, grâce au pouvoir de la pensée collective, ont grandement contribué à attaquer l'illusion mondiale. Aujourd'hui, le Christ poursuit cette même tâche grandiose. Le sens spirituel donne à son arrivée imminente, en termes symboliques, et que lui-même et ses 9000 Arhats. Arhats, ça veut dire disciples. Mais pas comme on l'entend, c'est pas ses disciples, lui, c'est les disciples de la vie, ceux qui se disciplinent aux lois de la vie, attention à la nuance. Quand il dit mes frères, il dit pas appelez-moi maître, hein. C'est à cela que nous nous préparons, seule l'intuition peut dissiper l'illusion. Alors, derrière la méditation, vous avez cette faculté du corps christique ou bouddhique qui est l'accès à la réalité sans passer par le raisonnement, l'usage du mental en tant que raisonnement. L'être sait que c'est cela la vérité. Et le faux, voyez-vous, qui est l'opposé, puisqu'en fait, quelle est la caractéristique du plan physique cosmique? C'est le vrai. L'énergie du plan physique cosmique a son aspect primaire, le vrai. Et bien évidemment, vous voyez comment l'être cosmique qui a amené le faux sur la Terre, son but, c'était de créer une barrière infranchissable entre l'âme et le plan bouddhique. Et les gens qui sont touchés par le faux, ils ont quelque chose à franchir, ou ils ont quelque chose à franchir, c'est que le faux fait perdre le nord. Donc ils n'ont plus de repère du vrai. Et ils sont dans un doute déstabilisant. Ils ne savent plus Où est le nord? Et quand vous rencontrerez quelqu'un qui malheureusement est contaminé par le faux, eh bien si vous voulez l'aider, là est la racine de sa difficulté. Il a perdu le nord. Donc il ne sait plus fondamentalement trouver l'esprit christique.
Ni l'esprit critique non plus d'ailleurs.
Oh, la critique, si.
Enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'esprit critique.
Oui. Non, je préfère le discernement à l'esprit critique.
Oui, d'accord. D'accord. Ouais. Ok.
Parce que l'esprit critique, t'as un double sens.
Oui, c'est vrai.
Attention.
Mais c'est ça, voilà. Oui, on a déjà parlé de ça.
Et la barrière est trop vite franchie.
Oui, c'est discernement, c'est ça.
Ouais. Le sens du discernement.
Ah, ouais.
Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les facultés liées à l'aspect christique, le Fils, dans son état divin. C'est-à-dire, en fait, l'union des deux pôles de la vie, esprit, matière. Et le Fils, lorsqu'il est justement dans le vrai, eh bien, il a accès à sa dimension de pureté. Le premier don, il reçoit de la mère. La pureté. Il va franchir les plans liés au Père, il atteint la perfection. Et quand il a réuni pureté et perfection, qu'il a uni donc le Père et la Mère, il reçoit la puissance divine. Pureté et perfection vous donnent puissance. Nous sommes dans les dons naturels de la vie. Ça n'appartient à personne. Il n'y a pas de privilège, hein, on se reprend bien. Chacun n'a simplement qu'à cultiver son jardin. Il faut démystifier les illusions religieuses. Et quand je dis religieux, je l'entends sous l'appellation religare, relié, hein, religion. D'où le besoin d'avoir des intuitifs entraînés. Quand vous méditez, et je précise, ne vous arrêtez pas au temps. Parce que curieusement, quand vous serez en méditation, et vous pouvez l'être un jour, à votre grande surprise, quasiment en étant permanent. L'état permanent, c'est-à-dire de regarder du haut vers le bas. Vous vaquez à vos occupations, mais en aucune façon vous quittez ce double regard. Eh bien, à partir de là, vous êtes une fontaine d'énergie par lequel peut s'exprimer la hiérarchie de lumière. Elle peut être planétaire, elle peut être solaire, elle peut être cosmique. Et en faisant cela, en étant dans cet alignement de lumière, eh bien, vous participez à l'estompage du brouillard, que sont l'illusion, le mirage et la maya. Et quand vous êtes dans le vrai, eh bien, vous atteignez l'énergie christique qui va se développer comme je viens de vous l'évoquer précédemment, et à partir de là, vous devenez un intuitif c'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne en état d'esprit christique. D'où aussi le service que vous pouvez rendre à cette cause mondiale en vous soumettant à un tel entraînement. Tel, je dis bien, ne prenez pas ça comme quelque chose d'inaccessible. Tel, c'est plus sous l'aspect « tenez bon ». Que ce ne soit pas un feu de paille. Je vous renvoie à cela, à, malheureusement, un constat habituel. Un être qui se réalise est persuadé qu'il va avoir des grandes choses à faire. Illusion. Il va d'abord être testé sur les petites choses de la vie, pour voir comment il appréhende cela. Mais en l'état, attention au mirage messianique. Hein, c'est de l'orgueil, et ça, on est persuadé qu'on est chargé de grandes missions, et que, évidemment, on ne sera sollicité que pour une vaste aventure. Voilà. Alors, si vous êtes en mesure de surmonter le mirage dans votre propre vie, si vous pouvez par conséquent comprendre la nature de l'illusion, vous pouvez aider, alors là, en marge, je vous invite à mettre « dissipation ». Hein, en marge, tu veux, au même titre qu'on a mis nature, cause, hein, et le troisième.
C'est le grand 3, ça.
Oui, c'est le 3, dissipation.
À partir d'où c'est le grand 3?
Ben là, vous pouvez aider à. Donc là, tu mets à côté de détruire le gardien du seuil, tu mets dissipation. Pas sûr. Dévitaliser la maya générale. La maya générale, si vous voulez, c'est notre bocal de toutes les pollutions humaines. Dissiper le mirage, c'est lié au désir et dont on voit les effets sous l'aspect souffrance de l'humanité. Et dissiper l'illusion, eh bien, c'est, excusez-moi l'expression, dans sa phase la plus malheureusement perturbatrice, c'est les gens dits bien pensants. Qui sont persuadés de détenir la vérité, qui sont persuadés d'avoir raison et qui ne peuvent pas avoir tort. Voilà. Et on mesure le déséquilibre de ça quand on voit que l'humanité se meurt. Et que les gens dits bien pensants disent il faut qu'on conserve la situation en place établie. Vous devez alors le faire dans votre vie et dans les rapports de groupe. Alors, votre plus grande contribution vous permettra d'aider à résoudre les plus importants problèmes des hommes. C'est quand même quelque chose de conséquent. Hein, même si... regardez. Vous avez là un service, un premier service qui est, je dirais, à la portée de tout à chacun qui l'assume. Et vous vous attaquez quand même à quelque chose de planétaire. L'acuité de l'intellect, l'illumination du mental, l'amour et l'intention feront beaucoup, je vous rappelle, ce service. Donc quand vous méditez, vous clarifiez en fait le brouillard de l'humanité. Pourquoi les gens dits bien pensants sont d'une action perturbatrice, et c'est parce que en fait le mental est utilisé dans une dimension et une intensité conséquente. Et en cela, ils ignorent la puissance de leur pensée. C'est bon ? Ça va ?
Là, est-ce que tu peux revenir sur « et dans les rapports de groupe » ? Vous devez le faire dans votre vie et dans les rapports de groupe.
Alors, comment vivre en tant qu'être sur la Terre ? C'est-à-dire en tant qu'âme, en tant que soi. Et je vous rappelle que fondamentalement, il n'y a pas ton âme, mon âme, il y a l'âme. Et que par conséquent, l'âme est par définition une fraternité, donc un esprit de groupe.
Donc c'est dès qu'on est deux alors, c'est pas forcément un groupe nombreux.
Vivre en tant qu'esprit de groupe, c'est d'abord le respect de l'autre. Et puis c'est cette notion de ne plus vivre en comportement de personnalité. Mais quand il est dit vivez en groupe, il faut bien comprendre que dans l'évolution du groupe, et bien évidemment du groupe physique, parce que ce que les êtres ne réalisent pas forcément, c'est qu'en tant qu'être, ils se retrouvent. Un groupe ne se fait pas par hasard. Ce sont des êtres qui se connaissent, d'abord dans la dimension de l'être, mais en plus ont, en toute vraisemblance, eu des vies communes, avec tout ce que ça peut signifier à la fois de positif, mais aussi de faiblesse. Et un groupe, il a sa dimension de personnalité. Et puis, il aura sa dimension d'âme, et puis il aura sa dimension d'unité de groupe. C'est-à-dire que quand vous rejoignez un groupe, ce groupe, dans son ensemble, a son niveau de réalisation. Il en sera à la première initiation, il en sera à la seconde, jusqu'à la cinquième. Et tant qu'il n'a pas franchi la deuxième, eh bien, nous sommes en personnalité de groupe, c'est-à-dire que, bonjour les dégâts, les êtres se critiquent, se jugent, veulent naturellement se trouver au centre. Alors, il y a des travers à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils se veulent effectivement être bien vus par... on va dire l'instructeur, excusez-moi l'expression, je vais être très direct, il n'en a rien à foutre. Lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Hein, c'est pas l'affectivité. Ce qui l'intéresse, c'est le rayonnement de chacun. Et que par conséquent, il est en impassibilité. Et par définition, le silence détermine bien souvent la considération en tant qu'être. Parce qu'en fait, la démarche d'un être de groupe, c'est de ne pas charger, de ne pas peser. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous voulez, à une plus grande échelle, les maîtres veillent à libérer le patron de son temps de travail. Donc, il ne mobilise Maitreya que très très rarement, pour lui laisser sa totale liberté d'action. Hein, mais c'est pour montrer à une autre échelle. Bien. Vous avez des questions à ce sujet ? Autrement, on passe aux aspects du mirage. C'est un tableau récapitulatif. Hein. Donc, l'illusion relève du plan mental. Hein, le mirage mondial recouple, en fait, ce qui est défini dans les quatre aspects. Hein. Bon, alors... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une relation directe entre le mirage et l'astral. Donc chacun de nous pouvons avoir un corps astral trop développé, qui doit être asséché, et qui va bien sûr du bas astral avec toutes les perturbations, les aspects lourds, nauséabonds du comportement humain, jusqu'à l'affectivité. C'est-à-dire le besoin d'aimer et d'être aimé. L'affectivité, ça relève de l'astral. Un être d'amour, quand il est dans cette véritable énergie, il est constant, permanent, impassible et en indifférence divine. Dispersion, c'est l'objectif, mais c'est aussi notre champ de travail. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est comme la météo du jour. Si vous créez des culottes de gendarmes, le soleil passe à travers. Eh bien, chacun de nous, en dispersant l'illusion, nous permettons à la lumière de passer. Et plus le soleil passe, plus il disperse le brouillard. Contemplation de l'âme, vous pouvez mettre à côté méditation. C'est repris en dessous, mais il faut le mettre aussi là. Parce que contemplation par l'âme, c'est permettre à l'âme d'observer et d'agir. Alors, sentier de l'initiation, parce que, en fait, si vous voulez, ce n'est qu'à partir de la maîtrise du mental, et donc de la volonté, qu'il y a réellement, en fait, chemin... mené par l'intention, c'est-à-dire que c'est un effort de volonté lié au mental. Mirage, c'est lié à l'astral. Donc processus d'illumination, c'est pour ça, si vous voulez, que en faisant référence au Bouddha, quand il a atteint l'illumination, en fait, il a saisi quel était le problème du mirage, c'est-à-dire le désir. Qui entraîne la souffrance. Et il faut dissiper le désir, c'est-à-dire neutraliser nos vies mineures qui génèrent ce désir. Il ne s'agit pas, on se comprend, hein, il ne s'agit pas de se faire de l'ascétisme, il s'agit d'être à l'équilibre, parce que, je vous le répète, nous sommes responsables du bien-être de nos vies mineures. Donc tous ceux qui s'en vont à de l'ascétisme au point de se torturer le corps et tout ça, bonjour les dégâts. Hein. Je ne sais pas s'ils peuvent se regarder comme étant un bon père pour leur vie mineure. Hein. Il faut cultiver le petit lutin du chocolat, par exemple. Hein. C'est un bon lutin, ça. Hein. Alors, sentier du discipula, c'est se discipliner aux lois de la vie. Et là, l'exercice, eh bien, c'est de traverser le brouillard des nuages, des mirages, c'est-à-dire de maintenir fermement en fait, l'alignement avec la lumière de l'âme. L'astral n'est pas une création divine. Même si vous pouvez me rétorquer qu'il y a l'astral cosmique. Or, je vous rappelle que l'astral, c'est en fait tout le gâchis du parcours, qu'il soit de l'homme, qu'il soit de l'homme céleste et au-delà. Entre le point de départ où n'est que potentialité jusqu'au point de maîtrise, eh bien, vous avez le tracé zigzagant et qui entraîne le gâchis et qui va se traduire par ce qu'on appelle l'astral.
Alors, ça monte jusqu'au cosmique.
Ouais. Mais toute vie grandiose, pour aller de l'avant, elle part d'un point de départ, pour un point d'arrivée. Bon, quand on sait que les cycles cosmiques pour ces grandes vies, c'est gigantesque, et que tu le mesures par la situation, en ce qui concerne par exemple notre homme céleste, par la situation de l'humanité. Tu peux pas dire aujourd'hui, la planète est sacrée, étant entendu que les hommes se comportent d'une façon tout à fait saine, fraternelle. Maya est liée à l'éthérique. Alors là, on a effectivement plus ce qu'on appelle, puisqu'on est en plein dans l'énergie, on est en plein dans le gâchis. Alors l'inspiration, eh bien là, je vous renvoie à nouveau à la méditation. C'est-à-dire apprendre à respirer énergétiquement. Premier exercice de respiration, le silence. Apprenez à vous mettre au silence. C'est-à-dire à ne pas nourrir intérieurement tout le premier véhicule pensé, la première forme pensée qui vient et sur lequel vous vous accrochez. Regardez quand vous prenez le sommeil. Eh bien, ce sommeil est enclenché parce que vous avez cessé de nourrir une pensée, une réflexion. Dans la prise de sommeil, vous avez d'abord une méditation purement humaine, c'est-à-dire que vous faites le point sur les problèmes du jour, du lendemain, hein, et puis ça vous chauffe la tête. Et puis petit à petit, ça s'estompe, et puis il n'y a plus de pensée qui est poussée en avant, et puis pof, on quitte le corps. C'est ça le dédoublement. Quand tu t'endors, tu quittes ton corps. Simplement, tu sors par la mauvaise porte. Au lieu de sortir par une porte supérieure qui est le centre cardiaque ou le centre de la tête, vous sortez par la plupart du temps par le plexus solaire. Et là, il y a rupture de conscience. Alors, pour dissiper Maya, en technique, c'est l'occultisme. Ce qui différencie en fait, le mystique de l'occultiste. Parce que sur le plan terrestre, en réflexion du cerveau, vous appréhendez la réalité des choses de la vie, et bien tout cela, en fait, a un effet dévitalisant de Maya. Et vous apprenez le maniement, en fait, des énergies de la vie.
Moi, je comprends pas. J'ai même du mal à dire ce que je comprends pas. En plus, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ici, là, la technique, c'est pas la méditation.
Où ça?
pour Maya.
Bah si, je t'ai dit l'opposé justement.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, parce qu'il y a une colonne technique. Donc la méditation,
tu vois,
fait,
là,
technique pour toutes les colonnes.
Tu vois là, tu utilises ton mental concret qui sépare les choses. Sépare, tu veux séparer. Alors qu'en fait,
dans l'inspiration, la méditation, oui, d'accord, exact.
Il te distingue. Distinguer n'est pas séparé.
Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire, l'occultisme, l'événement de la force.
Quel est le but de tout l'enseignement? Le but principal, c'est d'amener les uns les autres, chacun de vous, à être des centres d'énergie, de vie consciente. Et par conséquent, d'être en présence éthérique, dynamique, actif et au rendez-vous des circulations d'énergie. Ce qui ouvre une porte au domaine de la méditation, c'est-à-dire d'être à des moments bien précis, à des rendez-vous de méditation supérieure, c'est-à-dire la méditation des grandes vies et notamment du Père. Or, notre Père est en méditation profonde 5 jours de la pleine lune. 2 jours avant, le jour de la pleine lune, et 2 jours après. Les 2 jours avant, il inspire. Le jour de la pleine lune, il est en intermède de contemplation. Et 2 jours après, il est en expire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être devient un initié aux réalités de la vie, c'est-à-dire qu'il va apprendre à participer au rayonnement de la vie sur le plan planétaire. À l'opposé, il fait pipi dans le bocal sans le savoir. C'est-à-dire que il est en parole oiseuse, il est en critique, il est en agressivité, il est en séparativité, et il ignore que tout ça, c'est de l'énergie de destruction. Vois-tu une distinction entre les deux choses?
Oui, oui, ça...
Qu'est-ce que c'est que Maya? Maya, c'est tout le monde, pour employer un terme simple, tous ceux qui font pipi dans le bocal, qui l'ignorent, qui se déversent en critique, en paroles oiseuses, en agressivité, en méchanceté. T'en vois encore?
D'accord.
Oui. Est-ce que ça... C'est un point de clarté,
en fait,
ça.
Il y a 2 gâchis. Il y a un gâchis dans l'astral et un gâchis
dans
l'éthérique.
Oui. Bah oui, parce que c'est le plan concret. Quel est le gâchis de l'éthérique? C'est qu'on est au rendez-vous de la matière. Donc des vies plus jeunes. Quand tu as pris, quand je dis ça, je me parle d'une façon générale. Quand vous avez pris votre contrat de vie, des hauts plans où vous vous êtes sacrifié pour remplir le contrat, le dessein de vie de celui qui donne la vie à la planète, de celui qui donne la vie au système solaire, de celui qui donne la vie au système cosmique, et de celui qui donne la vie aux 7 univers. Vous avez pris comme contrat de vie, moi, Dieu, je suis matière. Vous avez quitté les hauts plans où demeure la 4e hiérarchie créatrice, dite humaine, pour aller élever la matière au ciel et pouvoir dire un jour consciemment, moi, Dieu, je suis matière. Bien. Or, pour arriver au contact de la matière, il faut aller jusqu'au plan physique dense. Aujourd'hui, voit les milliards d'individus qui, ayant ce contrat, pour certains, je ne parle pas pour tous, puisque tu en as en fait qui émergent de l'aspect mère, d'autres viennent de l'aspect père. Je reprends ceci en disant, les dieux se sont faits hommes pour que l'homme devienne Dieu. Tu vois ? Bon. Eh bien, la situation générale, c'est que tu as Maya, c'est-à-dire un brouillard de pollution énergétique sur le plan éthérique. Ce qu'on appelle autrement, hein, tout ce qui a été déversé sur le plan physique, par la parole. Et après, tu peux pas dire, je le vois pas. Ben, je te réponds, ah bon ? Tu trouves que notre humanité vit dans un paradis ? Plutôt l'enfer, non ?
Mm-hmm. Bah oui.
Ben, tu vois Maya. Les pollutions que nous déversons dans nos auras, nous colorons le prana planétaire. Donc l'éthérique planétaire. Et cette pollution de l'éthérique s'appelle Maya.
Et donc le maniement de la force, c'est la destruction de Maya.
Oui, dans la mesure où si ce que il m'est donné d'évoquer. Je dis ça parce que je ne veux pas dire j'évoque, ça appartient à toute l'humanité. Donc, comme on dit, ce n'est pas mon savoir en aucune façon, c'est le savoir collectif. Si tu dis j'arrête, je veille à ne plus polluer, à ce moment-là, tu inverses en fait ta démarche. Tu deviens une unité énergétique rayonnante. Donc tu deviens un occultiste. Tu sais, ce qui veut dire en d'autres termes, un initié, parce que tu sais ce que tu es en réalité, c'est-à-dire un centre de vie, qui brasse ou des énergies de vie, ou des énergies, malheureusement, de mort. Ai-je apporté suffisamment de lumière ? Oui. Voilà. Il faut savoir qu'à chaque instant, par notre pensée, par nos émotions, par notre parole, eh bien, nous déversons ou des énergies de vie ou des énergies de mort. Et l'immortalité s'obtient ainsi. Quand on sort du règne humain, on est libéré de l'obligation d'y revenir sur le plan terrestre pour achever notre chantier. Tu vas m'appliquer quand il y a 4 heures. Mmh. Ça va là, jusque-là, c'est bon ?
Oui.
Bon. Donc en fait, à côté d'occultisme, hein, vous mettez stade suivant, initié. Quelle est la différence ? Un occultiste, c'est un étudiant. Un initié, c'est celui qui dit, sachant ce que j'ai reçu et ce que je sais, j'assume. Est-ce que vous voyez la différence ?
Mais il y en a un qui a pris conscience et l'autre pas encore.
Si, non, non. Non,
l'étudiant,
non.
Il a déjà pris conscience.
Il a pris conscience. Mais il lui faut maintenant avoir l'intime conviction qu'il est lâché dans le monde. Et par conséquent, il est dans la main du Père et le Père l'amène là où il y a du travail à faire. Vous voyez la différence entre un occultiste et un initié. Gardien du seuil, c'est donc la synthèse de ça. Conscience du cerveau, ange de la présence, ben ça c'est notre âme. Hein. Discernement, personnalité fusionnée avec l'âme, Donc, quand je dis personnalité fusionnée avec l'âme, c'est le champ de bataille. Hein. C'est-à-dire que c'est là où, comme on dit, il y a le combat. Hein. Et la finalité, c'est la fin de la dualité, c'est-à-dire que l'être observe en permanence et Abel a intégré Caïn et Caïn est devenu Abel. En son temps, Caïn avait tué symboliquement Abel, c'est-à-dire avait fermé la porte à la lumière d'Abel. Je vous laisse respirer un peu ou on y va encore, on poursuit.
Je trouve peut-être la différence des trois termes dans les objectifs, dispersion, dissipation et digitalisation. Ces termes sont employés, c'est qu'ils sont choisis, mais malheureusement, je ne vois pas très bien.
Attends, dissipation, on va prendre d'abord dissipation, t'imagines, tu mets à côté, c'est lié à l'astral, à l'eau, oui, et donc c'est nuage.
Ok, donc c'est les deux.
Tu vois, non, mais au-dessus, si tu veux avoir un repère technique, au-dessus de dissipation, ou à côté de mirage, comme tu veux, tu mets nuage. C'est-à-dire, c'est du brouillard, si tu veux, qui t'empêche de voir clair.
Ok, celui-là, c'est bon.
Dispersion, en fait, le terme, je lui préfère le terme, comment ? Rareté. Parce que si tu veux, le piège du mental, c'est qu'il brasse. Il brasse sans arrêt des idées, et plus tu brasses, plus il en brasse.
J'aurais mis le terme gommage, est-ce que c'est un terme que
s'il illustre pour toi le processus, c'est sans problème. Mais en fait, ça veut dire, si tu veux, disperser ce processus de brassage, tu vois, de brasser du vent, tu vois. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la Bhagavad Gita, vous avez Arjuna, qui est le disciple, et qui est dans le char de sa personnalité, et puis il y a Maitreya, Krishna, qui conduit. Et il conduit les quatre chevaux, qui sont en fait le physique, l'astral, le mental et la personnalité. Et il faut tenir en rêne. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du mental, c'est que l'homme se laisse piéger parce qu'il a l'impression qu'il est superbement intelligent, a la puissance de travail du mental. Or, c'est l'illusion. Si tu veux, quand tu mets dispersion, je te dirais concentration également. C'est-à-dire ne pas s'éparpiller sur 1000 pensées. Tu disperses ta puissance.
Se recadrer, quoi.
Hein ? Ah oui, bah tu. Et alors, quand tu y es arrivé, tu vas t'apercevoir que, en fait, ton mental est un espace tranquille. Et que tu n'acceptes à la réflexion que tel ou tel sujet. Mais t'es plus avec la place de la Concorde qui débarque dans tous les sens. Tu vois ? Une pensée, une respiration. Et si tu tiens la même pensée, tu médites. Bon. Les règles de la route pour procéder à cela. Quelles sont ces règles de la route ? Je vais vous en donner 6 parmi les plus simples, vous priant instamment de vous souvenir qu'elles ne sont pas imposées par l'autorité d'un comité de direction arbitraire, tel qu'un groupe d'instructeurs, ou l'instructeur d'un groupe, tiens, j'aurais cru que, bon, passons, et ce qui pourrait être moi, par exemple, bon, là, je suis encore touché par l'illusion, elles sont l'expression de conditions qui sont sur le sentier même, elles portent la garantie de l'âme de l'homme. J'aimerais que vous me mettiez un H majuscule à homme. Elles sont le résultat de l'expérience de millions de pèlerins sur le sentier. Je vais vous donner ces 6 règles dans leur forme ancienne et symbolique, les traduisant de mon mieux d'anciens manuscrits conservés dans la salle de la sagesse et qui sont à la disposition de tous les disciples sérieux tels que vous quand vous êtes là-haut. Vous n'en souvenez pas ? Pourtant, là-haut, travaillez. Ah là 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 là. Alors, les 6 règles du sentier. En d'autres termes, si vous voulez, c'est pour faire attention aux ornières et aux buissons épineux de la voie, qui peuvent entraver la voie, en vous rappelant que nous sommes la voie. La route est foulée dans la pleine lumière du jour projetée sur le sentier par ceux qui connaissent et conduisent. Rien alors ne peut être caché et à chaque tournant, l'homme doit faire face à lui-même. Ce qui voudra dire éviter la fausse perception. Ça vous sera donné après, mais je préfère vous l'indiquer tout de suite. À la page 8, vous aurez la fosse. Hein. Vous avez remarqué que les 7 voies principales de l'illusion sont... Hein, bon, eh bien, voilà, il faut être vigilant à la fausse perception. Ce qui veut dire que si vous tenez la route, vous serez dans la pleine lumière. Donc, à éviter ce qui peut être la fausse perception. Donc, en contrepartie, mettez vigilance. Sur la route, ce qui est caché est révélé. Ben, vous le voyez bien. Si vous avez le sentiment d'être sur le chemin, c'est une interrogation de ma part, c'est pas une affirmation. Vous vous apercevez que dans votre progression de vie en vie, à un moment donné, il vous est donné en clair la réalité des choses de la vie. Avez-vous le sentiment de toucher à cet accès en clair ? Essayez de comprendre, par exemple, que le chemin est protégé. Regardez les livres de Bellé, les livres de Blavatsky sont diffusés. Et curieusement, vous apercevez qu'il y a plein d'êtres qui, à un moment donné, découvrent en disant « Ah, il m'a fallu attendre cet âge-là pour pouvoir trouver ça. » Moi, j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps un grand éditeur découvrir à l'âge de la retraite qu'il ignorait Alice Bellé.
Il vendait les livres.
Ah, c'est même... pire que, enfin, dans ce cas-là, c'est pire que ça, parce qu'en fait, il avait une édition spirituelle. Et il éditait des auteurs qui traitaient en partie de Bellé. Faut le faire. Hein. Sur la route, ce qui est caché est révélé. Chacun voit et connaît la vélénie des autres. Il fait une parenthèse, mais quand il a l'air d'endure, Jewel Cool, il morsèque. Je ne trouve aucun autre terme, j'aime bien, c'est mon frère, parce que ça veut dire j'ai connu ta vélénie, pour rendre cet ancien mot qui désigne la stupidité, la bassesse. on est tous passés par là. Hein.
Bon.
Alors, la grossière ignorance et l'intérêt égoïste qui sont les caractéristiques dominantes de l'aspirant moyen. Allez, tiens, t'as ton paquet, maintenant, bonjour.
Bon. Il a tellement raison.
Et pourtant, malgré cette révélation, personne ne revient en arrière, ni ne s'écarte des autres, ni ne faiblit sur la route. La route se poursuit dans le jour. Alors, ce qu'il faut faire attention, à côté, vous pouvez mettre fausse interprétation. Et également, en dessous, fausse direction. Alors, si je veux aller plus loin dans ce passage, si vous voulez, il ne faut pas oublier que notre racine de vie a trois leviers. Le premier levier, c'est ce qui laisse aller de l'avant, ce qui freine la marche de l'être. En d'autres termes, ça régule sa progression. Le deuxième levier, c'est le dessein même de cette vie qui connaît en elle-même l'aboutissement de l'accomplissement de son dessein. Donc le but est toujours en connaissance de cause. Et c'est ce qui d'ailleurs conditionne un peu le premier aspect aussi. Hein. Troisième aspect, c'est ce qui conquiert la mort. En vous rappelant que la mort, c'est ce qui oblige l'être à revenir dans son chantier. Lorsqu'il n'y a plus de mort, ça veut dire que le chantier a été assumé. Et bien évidemment, la mort, c'est une bienfaitrice, puisque c'est ce qui nous libère quand même du chantier régulièrement.
Mais comme on le reprend après,
tu fais comme tu veux. T'es maître de ton destin, t'assumes. Tu fais le guignol, tu deviendras guignol.
Ce serait bien d'être à Mathusalem, comme ça on a le temps de tout balayer, finir le chantier et ne pas revenir.
Mais là-haut tu l'es. Là-haut tu l'es. Quand tu remontes à ta racine de vie.
Oui, mais après il faut revenir, il faut recommencer.
Ah, bah oui, mais attends. Et rassure-toi, hein, le futur cosmique c'est quoi? Hein, nous, on est là, bon, on dit, bon, d'accord, on a affaire à évoluer, les myriades de nos vies mineures, de nos corps, tout ça. Celui qui donne la vie à la planète, il a des milliards d'humains à faire évoluer. Est-ce que vous réalisez le chantier qu'il a? Hein? Comment ?
On ne passera pas forcément tous par là, parce qu'il n'en faut qu'un pour diriger une planète.
Ah. Il y a des
Mais il y a des milliards de planètes.
Faut pas dire que je m'y mette.
Non, non. La finalité, ce n'est pas de diriger une planète. La finalité, si tu veux, pour lui, c'est qu'il a ce stade d'évolution cosmique à franchir. Ultérieurement, s'il poursuit dans cette ligne, il deviendra le gosse solaire. C'est-à-dire qu'il ne donnera plus vie à une planète, mais à un système solaire. Bon, en vous rappelant qu'il y a environ 70 corps célestes dans un système solaire, parce que vous ne voyez pas les corps éthériques. Bon, eh bien, il faut bien comprendre que c'est sans fin, cette évolution. Tu prends une vie grandiose, n'est-ce pas, qui est arrivée aux sept univers, t'imagines l'orchestration qu'elle a assumée. Mais en cela, cette vie a pulvérisé sa vie en tout ce qui vit. Et depuis le plus petit atome jusqu'à cette grande vie, il n'y a qu'une seule vie.
Moi, ce qui me gêne, c'est revenir tout le temps. Moi, j'aimerais bien partir maintenant et aller plus haut et ne pas
revenir. Tu sais comment on n'en revient plus?
Ah oui, mais
quand on est devenu la voix. Prends la bonne voix.
Oui, mais
deviens la voix.
Là au-dessus, là, il faut trouver là.
Voilà.
On se le dise.
Non, non, mais. Hein, gardez le toba, là, le toba sur la sagesse, là, puisque l'âne, c'est l'humilité et la sagesse. Voilà, il mène la voix. Mais attendez, j'espère que chacun de vous, avec simplicité et humilité, mais vous dites, vous pouvez quand même dire, oui, je suis la voix en réalisation. Hein? Il ne faut pas donner dans la fausse modestie. Hein? Il faut assumer, mon sang. Vous ne seriez pas là autrement. Vous allez avoir des aides du quatrième œil, vous amenez ici, ils vont vous dire, oh là, je suis tombé dans un club de perdu. Là. Hein? Oui, mais c'est logique. Bah, vous savez, il nous a bien averti, hein, il y a 2000 ans, en disant, donnez pas vos perles aux pourceaux. Hein, les cochons, ils préfèrent les patates. Bah, symboliquement, voilà, ceux qui sont encore en ville et nid. Sur la route, on ne chemine pas seul. Si vous voulez, nous rentrons dans l'ère du Verseau et par définition, c'est l'émergence sur la terre du cinquième règne, c'est-à-dire la hiérarchie des âmes dont la manifestation est non plus l'individualité, mais l'unité de groupe. Et c'est pour ça que vous voyez, depuis que le Verseau a émergé, hein, au point de vue soleil énergétique, vous voyez que la réponse de l'humanité, elle le fait dans le matérialisme, dans l'économie, c'est les groupes. Hein? Il y a 50 ans, c'était très rare de voir groupe de transport, groupe bancaire, etc. Aujourd'hui, c'est qui ne s'appelle pas groupe? Ils veulent tous regrouper. Mais pour se bouffer.
Oui.
Il n'y a ni précipitation ni hâte. Au-dessus, vous pouvez mettre tortue. Tortue. Et cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, vous pouvez mettre un petit renvoi en bas parce que vous n'aurez pas forcément la place. Le temps ne compte pas, mais le temps est précieux. Aujourd'hui, vous avez des êtres qui franchissent deux niveaux d'initiation en une seule vie. Eh oui. Et notamment, vous avez les êtres qui franchissent la quatrième et la cinquième. En vous rappelant que dans la quatrième, c'est le renoncement à tous les attraits de la personnalité. Ce qui veut dire que l'être aura vécu un parcours de désert où parfois il aura eu le sentiment d'être écrasé, d'être broyé, d'être dépouillé. C'est le temps de la peau du lion. Il a tenu bon et ayant reçu, eh bien, il fait un pas de plus et il retourne au désert apportant l'eau de vie à ceux qui sont dans la même phase de traversée de désert. Eh bien, cet être en question franchira deux prises de conscience majeures en disant « J'ai compris pourquoi tout ça m'est tombé sur la tête, mais j'en ai compris aussi la véritable richesse. » Le sachant, le pèlerin presse le pas. Il se trouve entouré de ses compagnons. Les uns accélèrent l'allure et les suit, et il les suit. D'autres restent en arrière, ils imposent le rythme, ils ne voyagent pas seuls. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la notion de groupe, ce qui veut dire que le temps où les disciples étaient suivis un par un est terminé et que par définition un être doit intégrer la dimension de groupe, autrement il prend du retard. Mais il faut vivre la vie de groupe. Ne pas juger, ne pas critiquer. Tendre l'autre joue. Le pèlerin doit éviter trois choses. Alors, ah oui, sur la 3, vous pouvez mettre en marge fausse intégration. Ce qui veut dire, en d'autres termes, il n'arrive pas à trouver sa place. Le pèlerin doit éviter trois choses. Porter une cagoule. Il doit être clair. C'est-à-dire ne pas faire de façade et, j'aurais tendance à dire, ne pas se prendre au sérieux. Les gens qui se prennent au sérieux portent une cagoule. Ils se masquent. Un voile qui dissimule sa face au regard des autres. Hein, vous voyez le principe du masque. Il doit porter un pot d'eau contenant seulement ce qui lui est nécessaire.
Oui, attention. Hein ? Il doit éviter de porter un pot d'eau.
Oui. En fait, l'erreur, c'est le seulement. Hein, il retourne au désert, justement, pour amener l'eau de vie. Donc la connaissance et la sagesse.
Oui, mais en fait, il y a écrit éviter. Là, en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est parce qu'il faut éviter.
Non, mais on a compris.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Simplement, je vais te dire, le détail, c'est qu'il y a un point virgule au lieu d'avoir deux points. Ouais,
voilà. Ce qui est important, c'est seulement ce qui lui est nécessaire. On a compris.
Il doit éviter trois choses.
Trois choses. Donc, tu as deux points. Premier cas, deux points virgule qui devraient être deux points, c'est porter un pot d'eau pour uniquement son besoin personnel. Et troisièmement, il doit porter sur l'épaule un bâton non recourbé. Il doit porter un bâton recourbé qui symboliquement permet à l'autre de se reposer. Donc ça veut dire, en fait, si tu veux, soutenir la marche de l'autre. L'accompagner, pas le porter. S'il tombe là-dedans, hein, s'il se met à porter une cagoule, s'il ne s'occupe que de lui, s'il n'a pas le bras pour soulager l'autre, il est en fausse incarnation. Son incarnation est fausse. Chaque pèlerin sur la route doit emporter ce dont il a besoin, un vase contenant des braises, afin de réchauffer ses compagnons. Et une lampe, mais c'est un peu la même chose parce que c'est lié. Oui. Afin qu'il jette ses rayons sur son cœur et qu'elle montre à ses compagnons la nature de sa vie cachée. C'est-à-dire, si vous voulez, quand l'être est pris dans ses faiblesses, dans ses épreuves, ça veut dire par définition qu'il n'a pas la clarté de discernement. Il est pris dedans. Alors, la démarche, ce n'est pas de donner la solution à l'autre, parce que ça veut dire que vous le portez, et donc vous ne l'aidez absolument pas au discernement. Mais c'est le fait d'apporter clarté, c'est-à-dire que devant une situation donnée, montrer toutes les options possibles de choix. Avec ce que ça peut entraîner comme incidence. Mais laisser l'autre choisir. Surtout, jamais dire à l'autre ce qu'il a à faire. Parce que si vous portez un être et que ça ne va pas, il dira, mais c'est sa faute, hein, parce qu'il m'a dit de faire ce choix-là, mais pff, c'est lui qui m'a dit ça. Hein. Et par conséquent, en ayant cette démarche, et bien sûr en l'invitant à regarder en tant qu'être, et bien à ce moment-là, vous lui apportez champ de vision. Une bourse contenant de l'or qui ne gaspille pas sur la route, mais qu'il partage avec les autres. Alors là, ça va beaucoup plus loin, si vous voulez, que ce que c'est énoncé, c'est-à-dire c'est de l'usage spirituel de l'argent. Alors ça veut dire, si vous voulez, que chaque être a assuré son bien-être, son confort familial. Bah. Mais au-delà de ce confort, il a à concevoir un usage spirituel de l'argent. Et notamment, si vous voulez arriver à une dimension relationnelle de groupe pour des êtres avancés qui ont en charge donc des entreprises ou des hommes, eh bien, c'est de créer de l'activité, de l'emploi pour que les êtres ne restent pas, comme on dit, dans les ornières du matériel. Vous comprenez bien que tant qu'un être est pris par ses nécessités basiques de vie quotidienne, il ne peut pas s'ouvrir à la spiritualité. Ça ne lui est pas possible. Il est tellement pris.
Ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est ça.
Un vase scellé dans lequel il transporte toutes ses aspirations pour les déposer aux pieds de celui qui attend et l'accueillera à la porte. En fait, ça, si vous voulez, c'est toutes les pierres symboliques spirituelles qu'il a accumulées, donc toutes les qualités, toutes les richesses de l'expérience qu'il a acquise au fil de son parcours et qui un jour lui permettront de s'agenouiller devant le Père et de lui dire « Père, je pense avoir rempli mon contrat de vie ». Le pèlerin cheminant sur la route doit garder l'oreille attentive, la main généreuse, la langue silencieuse, le cœur compatissant, la voix d'or, le pied rapide, l'œil ouvert qui voit la lumière, il sait qu'il ne voyage pas seul. Et tout ça ne fait qu'un, c'est pour ça que je l'ai dit avec souffle. Non, viens là, elle est là. Viens là, on prend ta place. Hein. Non mais attends, avec tout ce qu'on étudie actuellement, on doit prendre en compte le temps que tu mets à retrouver ta place, c'est tout. J'aimerais que la voix d'or, j'aimerais que vous mettiez... bon, on va partir. L'oreille attentive, c'est-à-dire être à l'écoute des autres. Hein? Et notamment, je vous renvoie aux 12 observances, hein, avec l'amour, et pas être là à dire c'est son karma, il se débrouille. Hein. Donc l'oreille attentive, c'est cette démarche qui aide l'autre à devenir meilleur. La main généreuse, eh bien, c'est quand un être est dans une situation matérielle difficile, voir comment on peut l'aider à... Alors, la langue silencieuse. À mettre en dessous la pensée silencieuse. Et ça veut dire l'innocuité. L'innocuité. C'est-à-dire ne jamais nuire à quelqu'un, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Un être ne peut pas être en conscience d'être tant qu'il n'a pas éliminé ses comportements de pensée oiseuse, de critique. La critique, c'est du poison énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on n'analyse pas. Notre pensée, c'est de l'énergie. Nous avons un être qui présente une faiblesse, une difficulté. On ne peut pas lui dire directement. Mais notre pensée étant énergie, et par fonctionnement télépathique, l'analyse que nous faisons de sa faiblesse, pas du tout en le jugeant, mais en voyant qu'est-ce qui fait qu'il est accroché dedans, eh bien, soit par nous-mêmes, soit en échange avec un autre ou avec d'autres, mais dans le fait d'analyser de façon bienveillante, eh bien, nous lui projetons la lumière pour l'aider à grandir dans ce domaine. Vous voyez toute la nuance entre l'analyse et la critique. Mais on doit retenir que notre pensée est en pouvoir, la critique est du poison. Et par conséquent, ce n'est pas en traitant de cons les cons qu'on les améliorera. C'est tendre l'autre joue, c'est-à-dire aider l'autre à devenir meilleur. Je vous invite à réfléchir à la puissance de la parole. Vous savez que dans certaines écoles anciennes, comme celle de Pythagore, les nouveaux étaient tenu au silence pendant 2 ans. Il ne pouvait parler, prendre la parole pendant 2 ans. La voix d'or, vous pouvez mettre au-dessus, parce que vous retrouverez, c'est le même schéma, c'est la voix de lait, L-A-I-T, c'est-à-dire une voix douce, de douceur. Le pied rapide, ça veut dire progresser tant que la voie est ouverte. Donc ça veut dire ne pas perdre de temps. L'œil ouvert qui voit la lumière, c'est le troisième œil. La lumière de l'âme, de l'être intérieur. Unis à la lumière du Père. Il sait qu'il ne voyage pas seul. Alors, en opposition à ça, attention à la fausse application, c'est-à-dire l'opposé de ce que l'on vient d'appréhender. Voulez-vous des précisions ?
Oui. Par rapport à la main généreuse, comment distinguer si c'est pas un karma ou...
Alors, être amour, c'est pas dire c'est son karma, il assume. Mais alors, il faudrait que tu aies le petit livre sur les 12 observances. Mais c'est dit aimer et donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être de lumière, d'amour, aide l'autre à devenir meilleur. Ce qui veut dire qu'il saura être dur, exigeant et sévère quand il le faut. Et par conséquent, il faut, on va dire, répondre aux réponses d'encouragement. C'est-à-dire, si l'être montre, tu vois, qu'il a saisi, que sa démarche, il y veille et tout, eh bien, il faut l'accompagner, il faut éventuellement, voilà. Bon, alors c'est la même chose, je vais le dire autrement et d'une autre façon, c'est la même chose entre le mendiant professionnel et le mendiant du coin de la rue qui ce jour-là est ton mendiant. Mais c'est toi qui dois avoir le discernement. Tu vas voir un mendiant, tu vois que c'est un clochard, pochard, bon, il en est peut-être là, mais je veux dire, tu lui donnes 3 euros, 5 euros, il va aller s'enivrer. Est-ce que tu l'aides ?
Non, mais je veux dire, si on voit quelqu'un qui est dans le besoin, qui a vraiment besoin d'être aidé,
et ben,
comment
toi,
savoir s'il faut, si c'est son
karma ? Alors là, tu te relies à ton être. Comment se relier à son être ? Tu fais la paix intérieure dans ton cerveau, dans ton mental. Et puis ton frère jumeau t'attend. Voilà. Et tu te mets en invocation d'être réceptif à sa lumière. Et il va te donner. Et tu diras, bah tiens, voilà. Voilà. Mais c'est un exercice, c'est-à-dire que tu dois accéder à une clarté d'interprétation et de réponse, et c'est comme ça que tu grandis en fait en fusion avec ton être. Et à un moment donné, ce sera permanent. Mais tu le sais, de toute façon, ça a commencé par, tu sais, cette petite voix qui te dit, ah oui, hein, t'as vu, hein, t'as piqué le truc là, hein, tu le sais en toi, tu sais cette petite voix là qui te dit, et ben c'est ton être intérieur. Donc ton être, il ne demande que ça, hein, l'âme, l'être que tu es toi, il n'attend que justement pouvoir t'impressionner, au sens de te communiquer sa lumière. D'amour, puisque l'être, l'âme est amour, et puis la lumière de clarté. Mais tu le sais, de toute façon, je veux dire, c'est bien parce qu'on est à l'étude de ça, mais vous le vivez régulièrement. Mais il faut avoir du discernement, parce que tu as le faux. Si l'être... T'as des mendiants professionnels aujourd'hui ? C'est ça qui est dramatique, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a des mendiants professionnels qui s'amputent, hein, pour attirer la... Hein.
C'est la cour des miracles.
Pour eux,
c'est un travail.
Hein, ah bah oui. C'est un travail. Ah bah oui. Ben, il y a malheureusement des enfants qui subissent cela pour aller mendier. C'est dramatique. Hein. Bon, je suis les aspects illusion de la voix, c'est ce que l'on a évoqué précédemment, hein, donc la fausse perception, la fausse interprétation, la fausse appropriation, la fausse direction, la fausse intégration, la fausse incarnation et la fausse application. La page 9. Hein, t'as encore à tout casser un quart d'heure à tenir. Voilà. Donc je vous aurais bien chauffé le mental, je vous salue. Ah, c'est gentil. Non mais je comprends, dites attention. Hein. Vous savez que depuis 11h ce matin, à part la plage repas, autrement on est en méditation.
Moi, j'en peux plus. Mais alors pourquoi tu dis chauffer le mental, justement ?
Non, quand je vous aurai bien chauffé le mental. Bah, mais le mental, non mais attends, le mental c'est l'âme.
Oui.
Simplement le mental en question, il a trois aspects.
Oui.
Mental supérieur, l'âme et le mental lunaire concret. Voilà. Bah, là, ce qu'elle a, c'est le mental concret qui sature. Il n'arrive plus à. Donc ça veut bien dire, si tu veux, que le gardien du seuil, là, fonctionne. Elle sature, là. Elle dit, je ne peux plus. Là. Même mes petits lunaires, ils n'arrivent plus à cibler. Mais c'est pas en critique, hein, c'est pour illustrer.
Oui, tout à fait, c'est...
Mais voilà. Voilà. Mais attendez, attendez. Essayez d'imaginer. Hein. Je vais vous le dire à l'inverse. Qui d'entre vous a décroché en disant « Tiens, il faudra que je penche à acheter ceci ou à m'occuper de cela » ou... Non, dès l'instant...
Moi, je suis bien concentré. Moi.
Bon, ben voilà. Et ben, à partir de là, vous voyez quand même votre capacité à soutenir une méditation. Si vous voulez, il faut démystifier les prisons à idées. Une méditation spirituelle, et ben, vous la conduisez tant que vous tenez bon. Bon, elle n'est pas, si vous voulez, liée à l'alignement avec là-haut, hein, mais elle est liée quand même avec votre être intérieur. Donc vous voyez que depuis ce matin, eh bien, vous étiez, dans la mesure où vous aviez la lumière compréhension, c'est votre être intérieur qui, comme on dit, a piloté la manœuvre. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu posais des questions à juste titre, eh bien, c'était un peu « Attends, Cara a du mal à comprendre ce que lui dit Abel. » Voilà. On ne peut pas, je vous propose, si cela vous convient, c'est d'en rester là, on poursuivra la fois prochaine, et de faire peut-être... un alignement véritablement avec la hiérarchie de lumière pour que vous receviez un flot de paix pour bien fixer tout ça. Ça vous va ? On fera la prochaine fois, on prendra la prochaine fois.
Est-ce qu'on peut être intelligent pas intelligent sur le plan mental et intelligent sur les autres?
Oui, tu as beaucoup de sages qui n'ont pas dans cette vie développé pour telle ou telle raison le mental, mais qui baignent dans une sagesse d'être. Absolument. C'est ce qu'on appelle la sagesse des bergers. Notre mental concret, c'est une bibliothèque mémoire. C'est l'intellect, c'est normal, on en a besoin. Mais y a bien au-dessus, au point de vue faculté.
Oui, c'était ma question tout à l'heure, puisque tu disais, je vous ai chauffé l'âme, je vous ai chauffé le mental. Ouais. Donc, moi, ma question, c'était, est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre que par le mental ?
Mais la finalité, c'était justement de laisser le mental.
Oui, ben, c'était...
Et il faut bien comprendre que l'homme céleste,
c'est le point qui est mental, on
parle. Le mental humain pour lui, il est en dessous de son seuil de conscience depuis des milliards d'années. Okay. Au même titre que toi, tu n'as plus conscience du fonctionnement de ton corps physique dense. C'est automatique.
Peut-être pas.
Non, mais c'est automatique. Comprends ce que ça veut dire. Mais non, ce que tu dois comprendre dans ce que je dis, c'est que à l'époque où l'homme a pris corps dense, au temps de la Lémurie, il lui a fallu apprendre à coordonner le véhicule. Tu vois ? C'est-à-dire que pour lui, c'était un effort considérable. À telle enseigne que les êtres qui arrivaient à coordonner sortaient du règne humain. Au même titre qu'aujourd'hui, vous voyez que coordonner vos corps subtils supérieurs, ben c'est pas facile. Quand tu vois que l'humanité doit appréhender ce corps subtil qu'on appelle le corps de lumière, l'âme, dont la manifestation est la vie de groupe, ben vous voyez comment elle a la réponse pour l'instant. Pour l'instant, c'est terriblement difficile pour elle de vivre en groupe. Voilà. Alors, à chaque fois, voilà. Mais il y a des ponts. Il y a des ponts. Ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire une étape naturelle qui peut être dépassée. tu as deux façons de gérer la maîtrise de ton non-soi. Soit tu le disciplines, soit tu fais affluer les énergies d'en haut. C'est-à-dire que tu n'utilises que le vrai, que le beau, que le bien dans l'ensemble et que le pur. Ben, la deuxième solution est beaucoup plus rapide. Tu vois, voilà. C'est une transcendance, c'est comme ça ce qu'on appelle la transcendance. C'est-à-dire que tu peux passer au-delà d'une étape naturelle. Tu transcendes ton gardien du seuil. L'ange de présence, comme on dit, lui, il tord le cou. Ah non, c'est pour son plus grand bien.
J'ai une petite question.
Petite, t'es sûre, hein ?
Ouais. Bon. Comment ne plus sortir pendant son sommeil, donc par la porte du plexus ?
Alors, tu commences déjà par observer comment se déroule ton endormissement. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de te laisser flotter et partir, tu observes qu'est-ce qui se passe. Et puis un jour, tu vas entendre curieusement... Brrr, là, tu es en train de décoller. Tu vois, tu as les ailes qui... Brrr, bon. Voilà. Et puis un jour, bah, tu peux arriver à partir. Simplement, tout ça est géré par ton être. Ça veut dire que si ce n'est pas prévu pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier ceci, hein, c'est que ce dédoublement, compte tenu de l'état du plan terrestre, ce n'est pas la bonne formule. Hein, parce que quand tu es habitué à vivre là-haut et que tu redescends, tu te dis... Alors, et donc, tu as un phénomène, si tu veux, tu perds pied. Le dédoublement.
Ça,
comment ?
C'est pour ça qu'on ne veut pas se lever le matin.
Ah, ça, c'est, oui, c'est autre chose. Ça, c'est parce que tu te dis, je suis mieux.
Pardon. Bernard, les rêves, par exemple, c'est par le plexus alors qu'on est. C'est-à-dire
que on verra ça peut-être un jour, mais c'est pas comme on dit dans les cours immédiats. On verra les 10 sortes de rêves. Depuis le songe. Qui est une guidance, jusque au rêve, comme on dit, purement du quotidien, quoi, sur le quotidien.
On fait cet alignement ?
Ouais. Bon, allez. Alors, si vous voulez bien faire les choses, les deux pieds à plat, non croisés au sol. Cela, symboliquement, vous transmettez à la mère matière. Vous veillez à vous tenir droit sur votre siège pour la circulation des flux d'énergie. Vous frottez vos mains pour enlever les gants énergétiques. Vous fermez les yeux, vous intériorisez, vous rejoignez votre être intérieur. N'oubliez pas que votre pensée est en pouvoir, elle déclenche le processus subtil. Donc intérieurement, nous rejoignons notre être intérieur. En tant qu'être, nous rejoignons la hiérarchie de lumière. En tant qu'unité de groupe, c'est la porte à franchir. Unité de groupe. Nous tendons un pont de lumière et d'amour vers la maison du Père. Nous marquons une pause intérieure et certains d'entre vous vont ressentir un afflux d'énergie, soit par le centre du cœur, soit par le centre de la tête. Ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle une méditation sans semence. nous sommes en réception uniquement. En tant que centrale d'énergie, nous avons reçu afflux des énergies de vie et nous portons notre regard vers nos frères humains. Ensemble, nous disons amour, 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 amour. Que la divine lumière, l'amour et la force du Dieu unique et très saint descendent sur le nouveau groupe des serviteurs du monde, sur tous les hommes, les reines de la nature. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Voilà. Je vous laisse à vos ressentis intérieurs. Si vous l'avez vécu dans la paix intérieure et la sérénité, en fait, sachez que vous êtes monté sur le plan bouddhique. Et que par conséquent, apprenez à saisir en fait les plans d'énergie que vous côtoyez. Alors la réalité, si vous voulez, c'est la puissance du groupe. Quand des êtres fonctionnent en unité de groupe, eh bien, ils ont un déploiement de puissance. C'est pour ça que Maitreya vous dit à 2000 ans, quand vous serez au moins 3, je pourrai donner ma puissance. Il faut 7 pour un Bouddha d'activité, 12 pour le Père et 21 pour un être plus avancé. C'est le minimum de structure énergétique qui peut permettre le passage.
Et quand on n'est que deux ?
On se relie au groupe. Il n'y a pas de séparativité. Quand vous faites une méditation, il faut toujours vous dire en tant qu'unité de groupe. Autrement, vous vous reliez. Mais je pense que Cléa vous a déjà invité au moment propice, aux opportunités, à vous retrouver. Mais vous pouvez le faire, pas, si vous êtes dans l'impossibilité, vous le faites, comme on dit, chez vous, mais vous le faites en tant qu'unité de groupe. Et il n'y a aucune séparativité. Voilà. Alors ceux qui auraient ressenti donc ces pressions au niveau soit cardiaque, soit de la tête, et aussi, on va dire, un enserrement curieux, un enserrement de la tête, c'est l'afflux d'énergie. Vous avez vécu ce que c'est qu'un moment d'afflux d'énergie. Quand vous avez l'impression que la tête serre, c'est l'inverse, en fait. C'est parce que elle prend beaucoup d'énergie. Voilà.
Et les fourmillements ?
Pareil. Pareil. C'est le cœur énergétique qui est mis sous tension. Mais on est dans un contexte naturel. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier. Vivez simplement. La question, c'est l'intime conviction. Ayez la foi.
Merci Bernard.
Merci Bernard.
On se revoit quand la prochaine fois ?
Le 2 décembre.
Oui. La prochaine fois.
Le 3 décembre, je crois. 3 décembre.